Matinale politique avec, bien entendu, en ligne de mire, les élections européennes. Nous recevons trois têtes de liste aux élections européennes. Manon Aubry dans quelques instants, Nicolas Dupont-Aignan ensuite. Et tout d'abord, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en notre compagnie avec mon camarade Frédéric Seitz. Nous allons dialoguer avec vous. Et
bonjour.
Tout d'abord, la
bonjour.
Question rituelle, François-Xavier Bellamy. Quelle Europe voulez-vous?
Eh bien, une Europe forte qui assume de pouvoir enfin sortir de la naïveté et de défendre dans la mondialisation la place de chacun de nos pays. On vient d'en entendre une illustration. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est au milieu du gué. Nous avons su construire des outils qui sont à notre disposition, mais nous n'avons pas su en faire des leviers politiques. Je pense à ce marché unique que l'Europe a su construire. Aujourd'hui, parfois, elle se réduit à ce marché qui est une proie trop facile dans la mondialisation et qui n'a pas encore permis d'affirmer une capacité politique pour défendre, par exemple, notre autonomie stratégique en matière militaire, en matière de défense. Les Américains, on vient de l'entendre, c'est un exemple particulièrement parlant, sont évidemment nos alliés, ce sont nos amis, mais ce ne sont pas nos suzerains et nous ne sommes pas leurs vassaux. Et pour pouvoir affirmer notre indépendance et notre autonomie stratégique sur cette question de la défense, comme sur la question économique et commerciale, comme sur la question agricole, qui est la condition de notre alimentation et de notre sécurité alimentaire, sur tous ces sujets, il faut une stratégie européenne forte qui nous permette de renforcer nos pays dans la mondialisation.
Quelle différence avec ce que dit Édouard Philippe, le Premier ministre, en une du Figaro, pour une France forte dans une Europe solide? Qu'est-ce qui vous distingue de lui, finalement?
Deux choses. La première chose, c'est que d'abord, nous ne croyons pas à la vision de l'Europe qui est proposée par Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Au fond, Emmanuel Macron nous a expliqué dans son discours de la Sorbonne, dans son discours d'Athènes, et c'était une vision forte de l'Europe qu'on pouvait reconnaître, dont on peut reconnaître la légitimité, mais nous ne la partageons absolument pas. Cette vision, c'est celle qui consistait à expliquer que dans la mondialisation, l'échelle de nos États est une échelle dépassée et qu'il faudrait transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. Nous ne le croyons pas. Nous croyons que l'Europe n'a jamais avancé quand elle s'est prise pour un super État et qu'au contraire, il faut qu'elle reste fidèle à son modèle spécifique dans le monde. L'Europe n'est pas un empire. L'Europe n'est pas vouée à uniformiser les États qui la composent. Au contraire, elle est ce partenariat entre des démocraties qui s'expriment en se renforçant les unes par les autres dans le monde qui leur fait face. Et le deuxième élément, c'est que pour que la France soit forte, comme le voudrait Édouard Philippe, encore faut-il qu'elle s'en donne les moyens. Aujourd'hui, malheureusement, la France est plus isolée que jamais, plus marginalisée que jamais, d'abord parce que cette vision que le président de la République a exposée n'est partagée par personne. On a vu la réponse parfois indifférente et parfois carrément négative qui a été apportée à sa lettre aux Européens. Cette vision-là ne fonctionne pas. Les listes transnationales qu'Emmanuel Macron défendait, l'idée d'un budget de la zone euro, l'idée d'une Europe qui se contenterait d'imposer des quotas de migrants à des États au lieu de prendre en compte ce que leur démocratie exprime, cette Europe-là ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Et c'est exactement l'Europe qui suscite la défiance que nous voyons poindre aujourd'hui. Cette vision de l'Europe a isolé Emmanuel Macron, mais c'est aussi sa politique qui a isolé Emmanuel Macron en Europe. Et c'est à cet isolement qu'il faut parvenir à mettre fin avec cette élection européenne.
Frédéric, on va venir au détail de votre programme. Il y a une proposition dedans qui est un peu iconoclaste. Vous voulez changer les billets de banque en euros. Pourquoi ?
C'est très intéressant de voir exactement ce que je disais à l'instant. L'Europe a su faire un marché unique, mais ce marché est aujourd'hui une coquille vide et l'Europe se réduit à n'être qu'un marché. Et au fond, nous avons oublié ce que nous étions, c'est-à-dire d'abord une civilisation, un héritage commun, une histoire et un élan qui nous projette vers l'avenir. Et au fond, on le voit bien dans ces billets qui sont symptomatiques. Symptomatiques d'abord de la crise économique que nous n'avons pas su gérer, mais aussi symptomatiques par le fait qu'effectivement, nous sommes peut-être l'une des premières sociétés dans l'histoire humaine à ne pas avoir fait figurer sur sa monnaie des éléments symboliques qui constituent une référence commune.
Par exemple,
les Grecs et les Latins frappaient leurs pièces de monnaie avec les figures incarnant l'autorité de leur cité ou de leurs états. Et puis ensuite, ça a été, nous en rappelons, sur le franc, eh bien des figures symboliques de notre culture.
Mais alors, vous mettriez qui, par exemple ?
Eh bien, de grandes figures de ce que peut constituer l'héritage européen. Les grands noms de notre littérature, de la philosophie.
Bon, d'accord, mais qui ?
Ah bah, pour le coup, on n'a que l'embarras du choix. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, sur nos billets de banque, comme vous le savez...
Vous ne mouillez pas tellement. Hein,
nous n'avons que...
Non, mais c'est-à-dire, donnez-nous des noms.
Mettons Notre-Dame de Paris, et mettons le Parthénon, mettons les grandes formes qui représentent ce que l'architecture et l'art européen...
Alors ça, c'est pour l'architecture, pour la littérature.
Et puis mettons, encore une fois, on n'a que l'embarras du choix, vraiment.
Oui,
mettons
bien sûr,
Cervantes et Dante, et mettons Victor Hugo, bien sûr.
C'est très bien, mais c'est très consensuel.
Mais c'est consensuel. Il nous faut aussi du consensus. Je veux dire par là que c'est exactement cela. C'est ce qui nous relie. Ce sont nos lieux communs.
Vous voulez pas des
c'est
choses un peu
commun.
Plus, comment dirais-je, un peu plus les républicains. Je ne sais pas, moi, Bernanos,
Et je crois qu'on a besoin de savoir, en tous les cas, on a besoin de savoir ce qui nous relie. Et il est tout à fait symptomatique que l'Europe n'ait pas été capable de nommer ses racines dans le débat en 2004 autour du traité pour la Constitution européenne. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit une incapacité anecdotique. Je pense qu'elle est décisive dans la crise de la transmission que nous vivons aujourd'hui, dans la crise de ce lien commun. Et par ailleurs, effectivement, sur ces billets de banque, nous n'avons fait figurer que des ponts qui ne mènent nulle part, des architectures abstraites. C'est quand même incroyable qu'avec tout ce que l'Europe a fait, nous n'ayons pas été capables de faire figurer ce qui fait notre culture commune.
Au-delà de ça, parlons un peu d'économie. Encore une fois, qu'est-ce qui vous distingue d'Édouard Philippe? En quoi la droite orléaniste, qui est finalement très bien représentée par Édouard Philippe et peut-être aussi par la politique de La République En Marche, a-t-elle besoin d'un challenger tel que vous, tel que les Républicains, François-Xavier Bellamy?
Moi, j'ai beaucoup de compassion envers Édouard Philippe parce qu'il est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement et il défend une liste dont la politique ne correspond pas du tout à ce qu'il avait porté dans le reste de sa vie politique. Et quand on voit d'ailleurs dans ce débat européen ce qui est aujourd'hui le cœur de la liste d'En Marche, on voit qu'en réalité, il y a là quelque chose qui nous renvoie à la gauche traditionnelle. Je veux dire que...
À la gauche? Vous trouvez qu'il a une politique de gauche?
La liste d'En Marche, en tous les cas, défend une politique qui est classiquement une politique de gauche. Prenons par exemple le budget de la zone euro. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'un budget de la zone euro? C'est l'idée de faire de la redistribution à l'échelle européenne, c'est-à-dire de créer un grand budget qui permettra en réalité de faire financer par d'autres pays que nous les dettes que nous avons accumulées pour faire en sorte d'organiser une redistribution à l'échelle de l'Europe. Ce budget de la zone euro de plusieurs points de PIB, bien c'est en réalité une vision qui se rapproche évidemment d'une politique classique de la gauche. Ça n'est pas étonnant quand on voit la composition de la liste d'En Marche, puisque derrière Madame Loiseau, par exemple, il y a des figures qui viennent de la gauche écologiste, par exemple
Pascal Canfin,
le numéro 2.
Ancien ministre de François Hollande.
Je respecte parfaitement le pluralisme des opinions, mais ce que je crois, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qui n'est pas assumé de façon transparente. D'ailleurs, on a eu face à nous une liste qui n'avait pas de projet jusqu'à 15 jours avant le scrutin. Mmh. Et quand on explique que l'Europe, c'est le cœur de l'action qu'on veut défendre, je crois que ça n'est pas prendre vraiment les Français tout à fait au sérieux.
Sur la question des listes, justement, on voit beaucoup dans les meetings à vos côtés Laurent Wauquiez. C'est lui, évidemment, président de Les Républicains, qui a poussé pour votre candidature depuis le début. On voit beaucoup aussi Agnès Evren et Arnaud Danjean, qui sont numéro 2 et numéro 3 sur votre liste. Vous entendez le reproche que vous font notamment les marcheurs, c'est de dire qu'on vous voit beaucoup moins avec le numéro 5 de votre liste, par exemple, qui s'appelle Brice Hortefeux. C'est quoi? Vous avez honte de lui?
Mais pas du tout, non. On a fait un meeting ensemble à Clermont-Ferrand avant-hier.
Chez lui, donc.
Chez lui. Et chacun des
colistiers... C'était le régional de l'époque, donc.
Bien sûr, mais chacun des colistiers, vous savez, fait campagne. Nous, depuis 3 mois, on est sur le terrain tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, au début, on a été beaucoup avec Arnaud et avec Agnès, en effet, qui ont été investis avec moi dès le début de cette campagne. Agnès, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, qui apporte sa connaissance de l'échelon régional, qui est fondamental pour l'action européenne. Puis Arnaud Danjean, qui est parlementaire européen sortant, qui est aussi un spécialiste très fort
des questions de lutte contre le terrorisme. Vous affichez des anciennes figures qui ne font pas spécialement renouveau.
Depuis qu'on est rentré dans le cœur de la campagne, on se répartit partout sur le territoire. Et je vois beaucoup moins, y compris Agnès et Arnaud. Brice Hortefeux fait campagne lui aussi et il fait tous les jours des réunions publiques. C'est comme ça aussi que nous voulons être au contact des Français, au contact du terrain. Nous ne sommes pas un mouvement politique artificiel. Au contraire, je crois que la politique se fait d'abord en se mettant à l'écoute des citoyens. Et c'est aussi la méthode avec laquelle nous avons travaillé depuis le début de cette campagne.
Ce que cherche à vous dire de manière un peu malicieuse mon camarade Frédéric Saïs, c'est que l'on a du mal à se dire qu'il y a une vraie homogénéité chez les Républicains. Vous incarnez effectivement une forme de renouveau, mais aussi une tendance bien particulière. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait pas vraiment consensus autour de votre personne. Vous pensez vraiment que... les remarques sur le fait que vous étiez la frange la plus conservatrice des Républicains se sont tues, François-Xavier Bellamy?
Ce qui est sûr, c'est que d'abord, nous faisons campagne autour d'un projet. Ce projet, on l'a dévoilé il y a 3 mois, dès le début de cette campagne. Il a été voté à l'unanimité de notre famille politique. Il a été aussi voté par les centristes qui nous ont rejoints. Et donc aujourd'hui, l'union de la droite et du centre, elle porte ce projet qui est clair, qui est précis, qui est cohérent. On peut au moins s'accrocher à cette certitude. Nous parlons d'une seule voix. Et deuxièmement, moi je n'ai jamais cru pour ma part que le renouvellement suffisait à faire un programme politique. Je suis nouveau dans cette expérience, c'est vrai, mais je crois qu'il faut pouvoir s'appuyer aussi sur l'expérience de ceux qui viennent du Parlement européen, qui apporteront leurs compétences, leurs connaissances des institutions européennes, qui sont des institutions complexes.
Alors justement,
et je ne crois pas qu'on puisse faire de la simple nouveauté un argument en soi. Je ne suis pas sûr que ça ait prouvé son efficacité dans le passé.
Dans votre projet, justement, vous évoquez le Parlement européen qui siège principalement à Bruxelles et un peu à Strasbourg pour les sessions plénières. Vous proposez carrément de faire de Strasbourg, je cite, le siège unique du Parlement européen pour le travail parlementaire, administratif et législatif. Est-ce que ça veut dire tout bonnement que vous souhaitez fermer le Parlement de Bruxelles ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui sur cette alternance entre Bruxelles et Strasbourg qui représente une difficulté logistique et économique non négligeable.
Oui, parce qu'il faut déménager les archives, les papiers, les collaborateurs et évidemment les
députés. Exactement. On entend des voix dire qu'il faudrait renoncer au siège de Strasbourg. C'est notamment ce qu'a répondu Mme Kramp-Karrenbauer à Emmanuel Macron. Ce qui donne l'indice de la faiblesse actuelle de la France dans le débat européen, faiblesse qui me préoccupe, je le disais tout à l'heure. Nous proposons que si on doit se concentrer sur un siège unique, ce soit à Strasbourg, d'abord parce que c'est le siège que les traités prévoient, deuxièmement parce que c'est évidemment marqué la place de la France dans le débat européen, et troisièmement parce que Strasbourg, c'est une ville qui symbolise peut-être justement cette histoire de la civilisation européenne, avec toutes ses déchirures et toutes ses blessures, mais aussi avec sa grandeur et sa fécondité.
Et parce qu'il y a aussi des enjeux économiques pour Strasbourg, pour les professionnels du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, etc. Ça pèse aussi.
Alors, ça pèse, mais enfin beaucoup moins que la dimension symbolique forte. Si la France perdait le siège du Parlement européen, ce serait le signe qu'elle est en train de devenir un pays périphérique en Europe. C'est ce qui la menace aujourd'hui. Et malheureusement, c'est
ce qui... Vous pensez vraiment ?
Bien sûr. Aujourd'hui, encore une fois, la réponse de Mme Kramp-Karrenbauer à la lettre d'Emmanuel Macron, expliquant que maintenant il est temps de renoncer au siège de Strasbourg et de mutualiser le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, c'est clairement une manière de dire que la France ne pèse plus ou qu'elle ne compte plus. On n'aurait pas fait ça au général de Gaulle, je peux vous dire, et on n'aurait pas fait ça même il y a encore quelques années à un président français. Et je ne dis pas ça pour... exacerber cette difficulté, mais pour le regretter et pour faire sentir le poids de notre responsabilité. Si nous voulons que l'Europe aille bien, il faut qu'elle retrouve son équilibre et son équilibre passera par le fait que la France y retrouve vraiment toute sa place.
François-Xavier Bellamy, ce matin, à la une des journaux, il y a les époux Balkany, le fait d'appartenir au même parti qu'eux, alors qu'ils vont être jugés avec toute une série de malversations. Ils ont le droit, évidemment, à la présomption d'innocence, mais enfin, quelle réaction ?
D'abord, ils ont droit à la présomption d'innocence,
bien
en effet.
Entendu.
Deuxièmement, je ne connais pas particulièrement ce sujet précis.
Oh, bah écoutez, je peux vous donner quasiment tous les journaux. Il n'y a que le Figaro qui n'en parle pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la justice fasse son travail. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire son travail à sa place.
Apparemment, ils sont jugés pour avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. Hein, je vous résume un peu l'affaire avec des villas qui auraient été achetées.
Mais très bien, la justice fera son travail. Je lui fais confiance pour cela. Et je suis sûr que la police et la justice sauront faire la lumière sur ce qui est effectivement reproché aux époux Balkany. Soyons honnêtes. Malheureusement, la politique a été trop longtemps discréditée dans toutes les familles politiques par des pratiques qui, évidemment, lui ont fait perdre son sens. Moi, je suis élu depuis 10 ans et je voudrais dire au nom de tous ces élus locaux qui
s'engagent... Ils avaient été condamnés, par exemple, dès 1996 pour prise illégale d'intérêt.
Je viens de vous dire que des pratiques qui ont fait perdre son sens à la politique sont graves et qu'elles doivent être évidemment condamnées et condamnées. Au nom de tous ces élus locaux, ils sont 500 000 en France, qui s'engagent bénévolement pour l'immense majorité d'entre eux, et de toute sensibilité politique qui contribue à faire vivre ce lien social qui est si profondément fracturé en France aujourd'hui, ces pratiques-là, si les époux Balkany en sont coupables, eh bien ils seront condamnés, mais ça n'est pas mon rôle de le faire ici, sur ce plateau, et vous le comprendrez très bien. Et je dirai la même chose, quelle que soit la couleur politique de la personne dont vous me parleriez. En tous les cas, des pratiques qui abîment la politique, évidemment, elles pèsent d'abord sur les élus, et sur les élus qui, pour l'immense majorité d'entre eux, font preuve d'un immense dévouement.
Frédéric Seitz. Replongeons dans votre programme, proposition numéro 12, fermeture immédiate des lieux de culte islamistes. Très bien, mais quel rapport avec les prérogatives d'un parlementaire européen ? C'est national comme décision.
Alors c'est national, mais il faut une stratégie européenne sur la question. Parce que, comme vous le savez peut-être, Aujourd'hui, nous avons construit une Europe de la libre circulation qui est un atout immense pour tous les citoyens européens, mais qui est aussi malheureusement parfois, si nous ne savons pas y prendre garde, un atout pour tous ceux qui veulent commettre des crimes, qui veulent entretenir des projets terroristes ou bien qui veulent effectivement propager la haine. On l'a vu au cours des dernières années, lorsque certaines personnes sont chassées d'un pays européen ou qu'elles sont surveillées ou interdites de propager des discours de haine, bien il arrive qu'elles puissent passer de l'autre côté d'une frontière et faire la même activité dans un autre pays européen. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer la collaboration entre les polices européennes à travers Europol, de faire en sorte qu'on puisse développer à travers des équipes communes d'enquête le fait de mettre en place de vraies stratégies pour mettre fin à cet évitement qui est aujourd'hui encore trop souvent possible. Il faut évidemment que nous puissions garantir la plus grande liberté aux citoyens européens, mais il faut que jamais cette liberté ne soit le signe de notre naïveté face à ceux qui menacent aujourd'hui nos démocraties.
Justement, est-ce que la laïcité à l'échelle européenne, c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faudrait insister sur les racines chrétiennes, par exemple, de l'Europe, François-Xavier Bellamy?
Je crois qu'il faut pouvoir nommer nos racines, toutes nos racines, c'est pas seulement les racines chrétiennes de l'Europe, et nommer les racines grecques, latines et les racines judéo-chrétiennes qui font notre héritage commun, ça n'est pas du tout une atteinte à la laïcité. Ça a été, à mon avis, la grande erreur de ce débat de 2004 que j'évoquais tout à l'heure. Quand nous avons vu Notre-Dame de Paris brûler, il n'était pas nécessaire d'être croyant pour se sentir touché. Et au fond, derrière la mention de ces racines, il y a seulement le fait que nous sommes liés les uns aux autres par quelque chose qui nous est commun. Or, si on revient à la question de l'islam radical, et je m'étonne d'ailleurs que ce projet soit le grand absent, cette préoccupation soit la grande absente d'autres projets, je pense à celui de La République En Marche qui ne s'intéresse juste pas du tout à cette question.
C'est pas le cœur d'une élection de parlementaires européens, reconnaissez-le.
Mais c'est le cœur. L'Europe, elle doit se saisir de tous les grands défis de notre avenir. Et celui-là, c'en est un, évidemment. Quand un ancien ministre de l'Intérieur nous dit aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain peut-être nous serons face à face. Quand Jérôme Fourquet publie un livre qui s'appelle L'archipel français qui montre à quel point les communautés françaises, les communautés qui font la France sont en train de s'éloigner les unes des autres, comme si nous n'étions plus qu'une juxtaposition de communautés qui s'ignorent et qui s'éloignent, eh bien je crois qu'on doit se saisir de cette question. Et qu'est-ce qui pourra nous permettre de lutter contre l'islamisme qui monte et qui gangrène beaucoup de nos quartiers ? Eh bien c'est le fait de pouvoir offrir un héritage, de pouvoir offrir une culture commune, de pouvoir transmettre le sens d'une civilisation en partage. Et c'est, je le dis comme enseignant, j'enseigne depuis 10 ans, j'ai enseigné comme beaucoup de jeunes collègues dans ces quartiers sensibles qui sont directement touchés par ce phénomène. C'est d'abord parce que nous n'avons pas su transmettre quelque chose comme cette culture commune que l'islam radical remplit aujourd'hui le vide que nous avons laissé prospérer.
Une dernière question, Frédéric.
Actuellement, le premier parti au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen, les conservateurs, dans lesquels vous siégerez si jamais vous êtes élu, évidemment, le 26 mai prochain. Est-ce que ça veut dire qu'en un sens, le parti que vous représentez est un parti sortant et donc, en un sens, avec l'humilité qui caractérise souvent les responsables politiques, est-ce que vous êtes co-responsable d'une certaine forme d'échec ou d'apathie de l'Europe ?
Moi, je rentre dans cet engagement avec évidemment un regard nouveau, mais je crois
que c'est un vous collectif, vous l'avez compris.
Il faut savoir tirer les enseignements des erreurs du passé. Le PPE est un des groupes importants au Parlement européen, qui est l'une des institutions qui compte dans la construction européenne. Donc, on ne peut pas considérer qu'il soit responsable de toutes les erreurs d'aujourd'hui. Les États y ont leur part, évidemment, à travers le Conseil des États européens, la Commission européenne. Mais il est très clair que pendant trop longtemps, nous avons cédé à la naïveté et avec ce nous collectif, oui, je le dirais avec humilité, nous devons reconnaître que tout n'a pas bien fonctionné. Il faut savoir tirer les enseignements des erreurs du passé pour écrire une nouvelle page et c'est pour cette raison que je m'engage.
Merci François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains.
Les Matins de France Culture, Guillaume Herner.
Manon Aubry, bonjour, vous êtes tête de liste de la France Insoumise, mais avant de vous entendre sur l'abstention, votre projet, quel est-il pour l'Europe ?
Bonjour, merci pour l'invitation. Notre projet pour l'Europe, il part d'abord de ce que l'Union européenne est devenue et d'une analyse de l'Union européenne qui devait être un cadre de coopération et qui est devenu un cadre de compétition en matière fiscale avec les paradis fiscaux, en matière sociale avec le statut de travailleur détaché ou encore en matière économique avec les traités de libre-échange. Et donc, notre vision de l'Europe prend le contre-pied de cette Union européenne grand marché pour proposer une Europe des droits sociaux avec un SMIC européen, une Europe écologique qui inscrit la règle verte, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer et donner une ambition de 100% d'énergie renouvelable, et une Europe de la justice fiscale qui cesse ce nivellement par le bas de l'impôt sur les sociétés notamment et qui prend à bras le corps la question de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux européens. Voilà quelques éléments de notre vision de l'Europe.
Sur votre programme, vous allez peut-être pouvoir ce matin lever une ambiguïté autour d'une phrase qui revient beaucoup dans le discours de la France insoumise, qui est d'ailleurs d'ailleurs inscrite noir sur blanc sur votre programme, sortir des traités européens si l'Union européenne en tout cas n'accepte pas de se réorienter. Soyons très clairs sur cette expression, on peut être pour ou contre, mais est-ce que ça veut dire sortir des traités européens, quitter l'Union européenne? Jusqu'à présent, ça n'a pas été très clair.
L'Union européenne ne se fait pas sans la France, donc la réponse est non. Donc, pour bien comprendre ce que l'on veut dire par sortir des traités européens, il faut comprendre d'abord ce qu'il y a dans les traités européens. Parce qu'une des raisons de l'abstention, on va sûrement en parler après, c'est aussi une mauvaise compréhension, une difficulté à saisir cet objet un peu obscur qu'est l'Union européenne. Et donc, les traités européens, tels qu'ils existent à l'heure actuelle, et qui par ailleurs, une partie ont été rejetés par le peuple français en 2005, un vote qui n'a quand même pas été suivi d'effet, un non qui a été compris pour un oui, les traités européens aujourd'hui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Empêche d'investir massivement dans la transition écologique.
Ça d'accord, mais vous en sortez, mais donc, sans sortir de l'Union Européenne.
Si je peux me permettre juste d'aller jusqu'au bout, parce que c'est important, parce que notre vision des traités, elle n'est pas dogmatique. On n'a pas un problème avec des traités européens, c'est avec ces traités spécifiques. Donc empêche de faire un investissement dans la transition écologique, parce que impose une règle des 3% de déficit, et donc on ne peut pas investir les dizaines de milliards d'euros qu'il faut pour les énergies renouvelables. Et ces traités ont aussi inscrit dans leur ADN la concurrence libre et non faussée en matière de services publics, ce qui explique la mise en concurrence de notre rail et de notre fret, par exemple. Et enfin, ces traités-là ont inscrit le libre-échange dans leur ADN. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut, changer, tourner la page de ces traités et en écrire de nouveaux.
Si jamais ça ne fonctionne pas, vous dites, nous en sortons.
Dans l'hypothèse où ça ne marche pas, ce que quand même ça n'a jamais été essayé, et je pense que c'est aussi une manière de sauver l'Union européenne quelque part, mais dans l'hypothèse où ça ne marche pas, nous dirons que ces dispositions aujourd'hui qui posent problème, alors nous ne les appliquerions pas. Parce qu'il en va de la survie de l'humanité que de faire la transition écologique, et donc ne pas respecter ces règles-là, ça ne va pas pour autant nous mettre dehors de l'Union européenne.
Donc vous restez dans la copropriété de l'Union européenne, si j'ose dire, mais vous ne payez plus les charges pour emprunter une image, ou en tout cas vous ne respectez plus le règlement intérieur pour une période.
On ne respecte pas certaines règles, mais vous savez, nous on ne respectera pas la règle des 3% de déficit pour faire la transition écologique, et de l'autre côté vous avez des pays d'Europe de l'Est comme la Hongrie ou la Pologne qui violent allègrement les droits de l'homme et on ne les met pas dehors pour autant. Alors parce qu'on veut sauver la planète, nous on nous pointerait du doigt et ceux qui violent les droits de l'homme, on ne dirait rien. Je pense qu'aujourd'hui l'ambition que l'on porte permet aussi d'ouvrir la voie vers ces nouvelles règles qui peuvent permettre de sauver l'Union européenne.
Manon Aubry, on continue sur les ambiguïtés, les complexités du discours de la France insoumise. Le mot gauche, il vous encombre?
Moi, je vais être très claire sur ce mot-là. Moi, je suis profondément de gauche. C'est un ADN politique qui m'est chevillé au corps. Parce que j'ai grandi dans un univers de gauche. Parce que pour moi, ça a du sens. Mais aujourd'hui, la gauche n'a plus de sens pour beaucoup de gens. Si la gauche est associée à ce qu'a fait le Parti Socialiste, notamment sous François Hollande quand ils étaient au pouvoir, à savoir les crédits d'impôt qui ont été multipliés comme jamais en faveur des grandes entreprises, et les cadeaux fiscaux qui ont démarré sous l'ère de François Hollande. Au niveau européen, le soutien à des traités de libre-échange. Les traités de libre-échange européens, c'est organiser un grand déménagement du monde. Faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui prennent le petit-déj en ce moment, faire venir du lait de Nouvelle-Zélande alors que du lait, il y en a qui est produit ici en France et il y en a déjà trop qui est produit. Voilà des exemples concrets de ce que la gauche a fait. Alors oui, ce mot est le galvaudé.
Mais alors c'est ce que vous appelez la fausse gauche qui vous ennuie,
ou
alors,
oui, parce que c'est ce qu'a fait la gauche. En fait, ce qui m'ennuie, c'est ce que certains hommes politiques ont fait au nom de la gauche, que ce soit au niveau français comme au niveau européen. Mais vous savez, je pense que la gauche est en jachère et qu'on est en train d'en semer les nouvelles graines. Alors, on est en train d'en semer les nouvelles graines sur ce qui fait la base idéologique initialement de la gauche, à savoir celui du partage des richesses, celui de la transition écologique, pour réconcilier peut-être les gens avec la gauche. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce mot, pour beaucoup de gens, ne suffit pas à mobiliser.
Parce que d'aucuns vous soupçonnent, Manon Aubry, pas vous personnellement, mais la France insoumise, d'avoir une stratégie que l'on pourrait qualifier de populiste, ni droite ni gauche, qui pourrait par exemple manger sur les plates-bandes du Rassemblement national.
Mais qu'est-ce que ça veut dire populiste? Ça veut dire incarner les aspirations du peuple? Moi j'ai pas de problème dans ce cas-là à être populiste. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons campagne et on essaie autant que faire se peut. Et je pense que sur France Culture, on peut développer des idées et on essaie de faire campagne sur ces idées-là, des notions de partage des richesses, de transition écologique, de lutte contre l'évasion fiscale et de justice fiscale, de justice sociale. Et on pose ces principes-là dans le débat politique, qu'ils soient associés à la gauche, tant mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ces idées-là qui doivent convaincre, et pas seulement le mot gauche saisi comme un totem. Et ceux qui s'en sont saisis, souvent, ont détruit ce mot-là.
Frédéric Seitz.
Dans votre programme, venons-en à vos idées, pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne, ce qui est écrit page 10, c'est que l'élargissement à de nouveaux pays est exclu, sauf en cas d'harmonisation sociale, environnementale, fiscale préalable à cet élargissement. Comment pouvez-vous harmoniser le système des pays avant même qu'ils soient entrés dans l'Europe avec un raisonnement comme ça, on n'aurait jamais fait entrer l'Espagne, la Grèce, etc.
Non, je vais mieux vous l'expliquer pour donner peut-être les sous-titres. C'est, il faut d'abord qu'il y ait une harmonisation des 27 ou 28, disons 27 États membres. Et donc c'est seulement si on arrive à se mettre d'accord, les 27 États membres, sur un cadre de progrès social et fiscal, c'est-à-dire un impôt sur les sociétés en commun, c'est-à-dire des ambitions écologiques communes avec un 100% d'énergie renouvelable. Alors, ensuite qu'on a ces règles-là qui garantissent le progrès social et écologique, on peut intégrer d'autres États dans le cadre de la coopération européenne. Sinon, que ferait-on ? On fait ce que l'on a fait avec le dernier élargissement, c'est-à-dire qu'on ouvre encore plus le marché et qu'il y a encore plus d'États qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et ça produit ce dumping social, ce dumping fiscal qui existe aujourd'hui au niveau européen et contre lequel nous nous battons. Ça ne ferme absolument pas la porte à de futurs élargissements. Ça la conditionne juste à une révision des règles pour l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle.
Mais alors le problème, Manon Aubry, c'est que ce que vous appelez le dumping fiscal est aussi une manière pour certains pays de disposer de richesses qu'ils peuvent ensuite répartir au sein de leur pays. Donc on imagine qu'ils vont avoir du mal à lâcher ce que vous soulignez comme étant une fiscalité injuste. Qu'est-ce que vous proposez pour ces pays ?
Alors, d'abord, je vais battre un peu en brèche l'idée qui consisterait à dire que parce qu'on est un paradis fiscal, en réalité, tout le monde se porte mieux dans le pays. C'est pas le cas du tout en Irlande, par exemple. En Irlande, certes, c'est un paradis fiscal, mais qui n'a pas, avec sa stratégie de paradis fiscal, enregistré tant de recettes fiscales supplémentaires que cela, et surtout qui n'a pas bénéficié aux classes les plus populaires et à l'ensemble de la société irlandaise.
Le PIB par habitant est supérieur à la France, tout de même.
Bien sûr, mais c'est un pays riche à l'origine. Mais le problème, en fait, de la stratégie d'évasion fiscale des pays. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si chacun va voler une partie du gâteau de l'autre, c'est qu'en faisant ça, la taille du gâteau global se réduit. Et qu'au rythme où on va, en 2050, les grandes entreprises ne paieront plus un seul euro d'impôt. Et ce qu'il se passe dans ces cas-là, concrètement, c'est que vous et moi, on va se retrouver à payer la note parce qu'a priori, je pense que personne ici dans ce studio n'a un compte en banque aux îles Caïmans, en Suisse ou aux Bermudes. Donc on va être plus facile à taxer en augmentant notre TVA et notre CSG. Et on va tous payer le prix d'évasion fiscale. Donc finalement, il faut arrêter ce cercle vicieux, cette stratégie du passager clandestin. Et pour cela, c'est pour cela aussi qu'il faut des règles fortes dans l'Union européenne pour mettre un coup d'arrêt et appeler un chat un chat. L'Irlande et le Luxembourg, il faut les désigner comme des paradis fiscaux.
Vous proposez aussi d'établir une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, ça veut dire sur les importations. C'est une proposition évidemment intéressante que partagent d'ailleurs pas mal de programmes. Mais concrètement, comment allez-vous contrôler en Chine, en Indonésie, au Chili, le niveau de carbone qu'a nécessité la production des produits ?
Alors, je vais la reformuler pour que ce soit plus simple à comprendre. C'est plutôt une taxe kilométrique. Donc, aux portes de l'Union européenne, plus le produit ou la marchandise viendra de loin, plus il sera taxé. Je reprends l'exemple de mon lait de Nouvelle-Zélande. On ne fait pas plus loin sur la planète pour la France et pour l'Union européenne. Et donc, quand le lait arrivera aux portes de l'Union européenne, alors il sera davantage taxé, ce qui fait qu'on favorisera davantage la production européenne. C'est bon pour nos agriculteurs, dont un tiers gagne moins de 350 euros par mois. Et c'est bon aussi pour la planète, puisque ça évitera à des marchandises de faire le tour du monde, ce qui n'a aucun sens écologique. Voilà concrètement. Et j'ajoute, vous dites que c'est présent dans d'autres programmes, c'est là où on voit en quoi le programme de La République En Marche est une vraie hypocrisie, puisqu'ils proposent une telle taxe carbone alors qu'ils sont les mêmes à soutenir les traités de libre-échange comme celui avec le Canada, le CETA, après lequel le trafic de marchandises entre le Canada et la France a été augmenté de 7%, autant de cargos en plus sur les routes qui polluent. Donc je pense qu'il faut être cohérent et ne pas mentir aux électeurs quand on fait une proposition.
Mais alors, Manon Aubry, lorsque vous dites que vous vous opposez à une taxe carbone qui serait finalement une taxe carbone pour les individus, pour les ménages, c'est cela en fait dont vous ne voulez pas, est-ce que ça n'est pas aussi une manière de faire un peu démagogique, puisque le diesel, par exemple, il pollue, qu'il soit utilisé par des entreprises ou bien par des particuliers, et aujourd'hui, la fiscalité du diesel, elle incite les ménages à rouler au diesel. Qu'est-ce que vous faites par
rapport
à ça ?
Alors, ce sont deux choses bien différentes. Quand on parle de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, c'est en réalité une taxe kilométrique. Je crois qu'elle est plus juste désignée de cette manière-là. La taxe carbone à laquelle vous faites référence, c'est celle qui a notamment suscité la mobilisation des Gilets jaunes en France. Et cette taxe carbone, en réalité, elle pioche davantage dans le portefeuille des ménages les plus pauvres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi nos divergences avec d'autres mouvements de gauche, plus ou moins de gauche, c'est que nous pensons que l'écologie...
Vous mettez des guillemets avec vos doigts, hein, je le dis pour les auditeurs.
C'est que l'écologie doit être populaire, elle doit se faire avec les classes populaires.
Et comment fait-on pas... avec ceux qui roulent avec une voiture diesel ?
Concrètement, vous commencez par leur offrir des alternatives de transport. Comment voulez-vous aujourd'hui culpabiliser, responsabiliser, individualiser ces ménages les plus pauvres et en même temps, dans la même dynamique, les culpabiliser et ne pas leur donner d'alternatives de transport. Et donc, il faut commencer par faire ces alternatives de transport, et le gouvernement fait tout l'inverse, puisqu'il a libéralisé le rail, ce qui se traduit concrètement par des gares, des petites lignes de train qui ferment.
Frédéric Seitz.
Une question sur Juan Branco, qui a été candidat aux législatives pour la France Insoumise, qui est l'auteur d'un livre Crépuscule qui décrit l'élection d'Emmanuel Macron comme une sorte de hold-up des grandes fortunes sur la démocratie. Cette première place dans les ventes de livres, qu'est-ce que cela dit, selon vous, Manon Aubry, de la société française d'aujourd'hui ? C'est inquiétant, c'est rassurant ?
J'ai pas forcément d'avis à avoir sur la question. Pour être honnête, je n'ai pas lu le livre, donc je pourrais pas vous donner un avis. Et vous savez, j'aime pas trop ces hommes et ces femmes politiques. Alors peut-être parce que je suis nouvelle, qui pensent avoir un avis sur tout.
Vous mettez un peu en touche là tout de même.
Bah non, mais j'ai pas lu.
C'est un phénomène de société.
Oui, mais j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vous dire de quoi il est le nom et qu'est-ce qui attire les gens. Et donc franchement, je pourrais vous faire de la langue de bois en disant je pense que, mais en l'occurrence, promis, une fois que j'ai lu le bouquin, parce qu'en l'occurrence on me l'a offert, promis, je reviendrai. Je vous donnerai un avis éclairé sur la question.
Mais l'idée, parce que bon, même si vous n'avez pas lu le livre, vous devez savoir qu'il est en partie lié, par exemple, sur des révélations de la vie privée et d'un proche du pouvoir, qu'il est aussi lié à toute une série de choses relevant des ficelles cachées dans la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de peinture-là de la politique ?
Moi, c'est clair sur la façon dont on fait de la politique. Je ne suis pas pour exposer la vie privée des uns des autres, quand bien même ce seraient des adversaires politiques. Et je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour combattre la politique actuellement menée par Emmanuel Macron. Sa politique en faveur des plus riches, avec des cadeaux fiscaux aux plus riches et la réforme fiscale la plus inégalitaire de la Ve République, que ça suffit dans notre besace d'arguments, je pense, pour aller convaincre les gens qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron renforcer le scrutin, qu'il faut l'affaiblir, qu'il faut envoyer un message dans les urnes. Et moi, je préfère me battre sur ce terrain-là, je me sens plus à l'aise.
Une dernière question.
Une dernière question rapide avec une réponse si possible concise également. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen selon laquelle si Emmanuel Macron n'est pas en tête pour ces élections européennes, ça sera un désaveu y compris national et qu'il devra soit lui-même démissionner, soit au moins changer le gouvernement ?
Je pense que s'il sort affaibli de ce scrutin, il sortira en effet affaibli aussi pour mener ses politiques par la suite, ses politiques notamment antisociales comme la réforme des retraites. Pour autant, et c'est peut-être le sous-entendu de votre question, je ne souhaite absolument pas que le Rassemblement National arrive en tête. Non seulement parce que le Rassemblement National, en réalité, sur certains éléments, a des idées proches, notamment sur les questions sociales et économiques de La République En Marche, mais aussi parce que j'ai toujours combattu le Rassemblement National. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ne se fasse pas confisquer cette élection, parce qu'on nous présente un duo entre le Rassemblement National et La République En Marche. Et donc, il y a une troisième voie, l'alternative, avec la liste que nous défendons pour ces élections de la France Insoumise.
Merci Manon Aubry, tête de liste France Insoumise, ancienne porte-parole d'Oxfam. 8h35 sur France Culture. Un autre invité, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, vous êtes tête de liste Debout la France. Et voici la question rituelle. Quelle Europe voulez-vous ?
Oh, bonjour d'abord. L'Europe des nations libres, qui respecte la démocratie, les peuples, et qui se construit par des coopérations volontaires, à la carte, simples, sur des projets précis. C'est-à-dire tout le contraire de l'Union européenne qui a défiguré la belle idée européenne de départ.
ce qui signifie que vous ne souhaitez pas que la France sorte de l'Union européenne.
Je souhaite que l'Union européenne sorte de l'Europe. C'est-à-dire que je souhaite qu'on renégocie tous les traités. Et de toute façon, l'Union européenne condamne l'Europe à l'explosion.
Condamne l'Europe à l'explosion, mais ça veut dire que cette explosion, elle viendrait de quel type de traité et de quel mécanisme,
Nicolas Dupont-Aignan ? Aujourd'hui, si vous continuez avec l'Union européenne, les peuples détesteront de plus en plus l'Europe et ce système va exploser en vol. Donc, il y a deux solutions. Soit on se soumet à cette organisation oligarchique, soit on la revoit entièrement. Et ce que je propose d'ailleurs depuis des années, j'ai commencé avec Philippe Séguin, il faut le reconnaître, c'est de remettre à plat tous les traités. La France est une grande puissance qui doit dire maintenant à ses partenaires, je ne joue plus avec ce jeu faux, déloyal, j'arrête et je reconstruis. Il ne s'agit pas d'arrêter pour s'en aller, il s'agit d'arrêter de jouer à ce jeu pour reconstruire la seule Europe qui a marché d'ailleurs dans l'histoire. C'est une Europe des nations libres et des projets, c'est ce qu'avait tenté le général de Gaulle.
Mais alors, pourquoi rester dans l'Europe dans ce cas-là, Nicolas ?
Mais c'est pas la question de rester ou de pas rester. Quand vous habitez un immeuble, vous avez un appartement dans une copropriété, le syndic est catastrophique, il vous donne des ordres, il a supprimé les portes de vos appartements, vous déménagez ou vous virez le syndic ? Ben moi, j'ai pas envie de déménager. La France est au cœur de l'Europe. En revanche, on va sortir l'Union européenne de l'Europe. C'est-à-dire qu'on va, si nous pesons, si la France se réveille enfin, eh bien, on peut changer beaucoup de choses. Et moi, je n'accepte pas cette théorie selon laquelle la France doit fuir l'Europe pour s'en sortir. La France doit modifier l'Europe à sa patte, à sa main. C'est la sixième puissance mondiale. Avec le Brexit d'un côté, je peux vous dire que si la France avait une politique pour une autre Europe radicalement différente, rapidement ça changerait.
Frédéric Seix.
Dans votre programme, vous proposez de récupérer une grande partie des 9 milliards d'euros de contributions nettes que la France verse chaque année au budget européen. Évidemment, on imagine mal que les partenaires restent inertes face à cette baisse de la contribution. Chacun va un peu reconsidérer forcément sa contribution. Chacun va baisser son budget. Est-ce que vous ne risquez pas d'entrer dans des calculs d'apothicaire et de bloquer l'action commune ?
Non, parce que sous Jacques Chirac, qui n'était pas anti-européen, on donnait 2 milliards nets. C'est-à-dire on versait 2 milliards de plus qu'on recevait. C'était normal. Il y a un effort de solidarité. Moi, je ne suis pas pour que ce soit un jeu à somme nulle. Mais là, on est passé à 11 milliards en 2016. Ça a rebaissé en 2017. Ça remonte aujourd'hui. Si, avec la sortie des Britanniques, on sera à 16 milliards dans 2-3 ans, c'est ahurissant. C'est plus que ce qu'on donne actuellement pour l'écologie en France. C'est d'avant presque autant que pour la sécurité. Pour une organisation qui nous fait du mal, qui délocalise nos usines, qui est soumise aux multinationales, qui organise le dumping social, fiscal. Donc il y a un moment, stop, il n'y a aucune raison que les Français soient les dindons de la farce. Nous sommes la deuxième contribution. Donc il y a un moment, on dit stop, on reprendra les financements quand on aura supprimé la directive travailleurs détachés, quand il n'y aura pas de paradis fiscaux au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Irlande. Il y a un moment où la France doit peser, doit dire je ne joue pas quand on me tape dessus à longueur de journée.
Alors quelles seraient vos priorités budgétaires, Nicolas Dupont-Aignan ?
Priorité budgétaire, d'abord que le solde de la France ne dépasse pas 2 milliards d'euros, c'est-à-dire que ce soit raisonnable. Deuxièmement, qu'ensuite nous soyons vigilants sur les dépenses, donc suppression de la Commission de Bruxelles, suppression des privilèges des fonctionnaires européens, suppression des crédits à la Turquie, qui est une dictature et que nous finançons de manière considérable. 14 milliards d'euros viennent d'être votés d'ailleurs aussi par les Républicains de M. Bellamy, par les socialistes. 14 milliards d'euros pour M. Erdogan qui passe sa vie à nous insulter et de surcroît à terroriser son peuple.
Pardonnez-moi, actuellement c'est 1,5 milliard par an.
Et 14 milliards d'euros sur le programme.
Voilà, et c'est pour, 2020, et c'est pour s'occuper des migrants et des réfugiés que la France ne veut pas accueillir.
C'est pas ça le deal de départ. Non, il y a deux choses. Il y a le programme migration, qui était 3 milliards.
Il faut le préciser quand même.
Oui, sur les 14. Mais pas c'est la préadhésion. C'est la préadhésion de la Turquie, c'est inacceptable.
Qu'est-ce qu'on en fait de ce programme migration, Nicolas Dupont-Aignan ?
Ce programme migration, on le calibre selon les réalités des choses, mais on n'a pas subventionné Erdogan pour sa politique insensée aux portes de l'Europe. Je finis sur autre chose, l'argent. Je veux qu'on le mette sur des programmes, car il ne s'agit pas simplement dans notre programme politique de revenir à des nations, c'est-à-dire de contrôler nos frontières, de revenir à un droit national, de maîtriser notre budget. Ça, c'est le retour des nations démocratiques. Mais il s'agit parallèlement de réorienter l'Europe sur des projets industriels, scientifiques, humanitaires, pour que notre continent pèse face à la Chine et aux États-Unis. Et ce qui est la marque de fabrique de notre liste debout la France, c'est cet esprit gaulliste. C'est-à-dire, on garde notre indépendance nationale, mais en revanche, on ne sort pas, on cible une dizaine de priorités. L'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, le programme pour la Méditerranée, le programme pour l'Afrique, le panneau solaire de demain, la voiture propre, la lutte contre le cancer. Nous avons recensé une dizaine de programmes qui mériteraient que l'Europe se muscle, mais pas à 28, par des logiques d'agences indépendantes, comme Airbus, comme Ariane, c'est-à-dire les seuls programmes qui ont marché quand même dans l'histoire de l'Europe. Car ce qui est paradoxal, mais je veux insister là-dessus, c'est que ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut transférer, il faut être fort, l'Union fait la force, etc. Mais ils n'ont rien fait face à la Chine aux États-Unis. Rien. Est-ce qu'il y a un Google européen ? Il y a un Google chinois. Est-ce qu'il y a une voiture propre européenne ? Non, c'est Tesla américaine.
Dans votre programme,
Frédéric Seitz,
au chapitre démocratie, vous proposez d'instaurer le vote blanc. Instaurer le vote blanc, sans doute, il faut comprendre, comptabiliser le vote blanc parmi les suffrages exprimés. Mais si je peux me permettre, quel rapport avec l'élection européenne ? Tout ça, ça se décide au niveau national. C'est pas l'eurodéputé que vous serez peut-être qui va dire en France, il faut avoir le vote
c'est
blanc.
C'est dans notre programme national. Ça a dû être ajouté dans le programme européen, mais c'est dans le programme national. C'est dans le programme national. Et nous l'avons. Pourquoi j'en ai reparlé ? C'est parce que vous voyez bien qu'il y a un énorme problème démocratique dans notre pays. Pour cette élection européenne, on annonce 40% de participation. Alors, quand on parle de chiffres, 40%, bon. Mais cela veut dire qu'il y aurait 28 millions d'abstentionnistes. 28 millions. Et 19 millions de votants. Si on croit que l'on va construire l'Europe avec 60% d'abstentionnistes, c'est parfois 80% dans certains pays, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut bien dire qu'il faut un autre système, et c'est pourquoi nous proposons référendum d'initiative populaire, ou citoyenne selon certains mots, et puis de l'autre côté, vote blanc.
Justement, comment vous expliquez l'importance des votes blancs, des abstentions ? Parce que aujourd'hui, on s'attend à une abstention record pour les élections européennes. Il y a eu une mobilisation sans précédent, celle des Gilets jaunes, Nicolas Dupont-Aignan, et cependant, elle ne se traduit pas dans les urnes. Pourquoi, d'après vous ?
C'est un drame. J'ai beaucoup soutenu les Gilets jaunes, vous le savez. Je parle beaucoup avec eux. Ils sont tellement écœurés par la manipulation médiatique permanente du pouvoir d'Emmanuel Macron, qu'ils se sont dégoûtés de tout. Et je leur dis souvent d'ailleurs, la manifestation la plus utile que vous pouvez faire pour vous, pour les Français, c'est d'aller prendre un quart d'heure le dimanche 26 mai, car vous avez la chance, nous avons la chance, d'avoir un scrutin proportionnel à un tour. Cela veut dire que vous pouvez choisir les députés de votre choix. Ne soyez pas enfermés par un duel organisé, manipulé par Emmanuel Macron, qui est le duel En Marche Rassemblement National, vous avez l'embarras du choix. Votez pour les listes qui vous permettront d'être représentés, ce ne sera pas parfait, mais vous avez l'occasion de voter. Et s'il y avait 80% de participation, imaginez, la liste Madame Loiseau serait à moins de 8% des voix. Et là, ce serait un sacré tremblement de terre. Donc je dis aux gens qui ne veulent plus voter, je peux les comprendre. Mais c'est pas la bonne solution, parce que s'abstenir, c'est voter Macron.
Sur les Gilets jaunes, sur votre liste, on retrouve Benjamin Cauchy, qui a été l'une des figures souvent invitées des médias pour évoquer les Gilets jaunes, qui était lui-même un Gilet jaune. Une autre figure des Gilets jaunes, Monsieur Barnaba, a rejoint la liste de Florian Philippot. D'autres Gilets jaunes encore ont rejoint le chanteur Francis Lalanne, et ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne peut se targuer de représenter le mouvement
dans
cette élection ?
Mais bien sûr, personne. C'est un mouvement transpartisan, c'est un mouvement social, donc il est bien naturel que cela s'éparpille sur différentes listes. Et Monsieur Cauchy, qui est sur ma liste, n'a jamais prétendu représenter tous les Gilets jaunes. Il a toujours avoué ses convictions gaullistes, sociales, et il estime que je défends depuis longtemps des sujets qui ont été défendus par certains Gilets jaunes, point. Je crois qu'il faut arrêter de catégoriser les gens. Il faut simplement se dire, est-ce qu'on veut un pays libre, démocratique ? La France ne l'est plus vraiment.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est soumise à des règles décidées ailleurs, par des gens qui ne sont pas élus. Voilà. Deuxièmement, est-ce que
quel d'être type de règles, donnez-nous des exemples.
Les directives, travailleurs détachés, le budget. Tous les jours, des milliers de normes sont prises à Bruxelles avec l'inconscience des gouvernements qui laissent faire.
Mais ça, justement, c'est...
Il faut remettre en cause ce système, sinon il n'y a plus de démocratie. C'est pour ça que les gens ne vont plus voter.
Si on vous suit et si on voit, justement, les revendications des Gilets jaunes, ou en tout cas leur discours, parce que ces revendications, elles sont multiples, on ne comprend pas pourquoi cela ne se traduit pas dans les urnes. Est-ce que ça signifie qu'il y a une déconnexion complète de la classe politique vis-à-vis de ces demandes ?
Cela signifie que l'image, et vous savez que c'est un de mes combats, qui est donnée par la plupart des médias français, ne correspond plus à la réalité de ce que vivent les Français. Que la société est parallèle. J'étais encore dans le Calvados, samedi, des gens me disent on ne regarde plus la télé, on n'écoute plus la radio, on ne s'informe que sur Internet. De toute façon, tout est transformé, tout est n'est
quoi,
jamais...
Par exemple
tout simplement la réalité des choses. On voit une propagande en ce moment dans certains journaux ahurissante sur l'Europe. Alors l'Europe a donné de l'argent, c'est complètement faux, elle nous coûte 11 milliards par an. C'est-à-dire qu'on veut formater les esprits, les Français se cabrent, et se cabrent paradoxalement dans le refus de tout vote, alors qu'il faudrait au contraire aller voter pour bouleverser le système.
Mais c'est peut-être vous qui ne donnez pas assez envie.
Peut-être, mais en tout cas on est assez nombreux à ne pas donner envie. Donc je crois que c'est plus grave que ça. Je crois que les Français croient que ça ne sert à rien de voter. D'ailleurs, ils en ont eu la preuve à chaque élection présidentielle. Mais je leur dis, justement, l'élection européenne vous donne la possibilité de voter à la proportionnelle, vous donne la possibilité d'élire des gens qui veulent remettre en cause ce système absolument antidémocratique qui a kidnappé l'idée européenne. Il y a l'embarras du choix, allez voter, c'est la seule solution. Et puis le combat continue parce que c'est un combat pour la démocratie en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est nouveau, nous avons à Debout la France un partenariat avec 23 partis politiques. Ce qui est nouveau, c'est qu'on n'est plus isolé. Quand les Français ont voté non en 2005, il y avait que deux pays. Aujourd'hui, cette Europe est
c'était
en train d'exploser.
C'était les Pays-Bas, le deuxième pays.
Est en train d'exploser sous nos yeux. Alors, l'Union européenne est finie. Elle est finie, alors c'est à une échelle d'un an, 10 ans, 20 ans. Mais cette Union européenne est finie. Ou alors ça voudrait dire qu'on n'est plus en démocratie. Donc moi j'appelle les gens à reprendre en main leur démocratie, c'est tout.
Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à nos questions.